C'était un beau jeune homme et j'étais demoiselle, bien que j'ai eu déjà par hasard mes jumelles.
Moi, mes projets, c'est en fait d'attendre qu'on me donne l'autorisation de remonter sur scène.
Bonjour, c'est Maïté sur Fréquence Grand Lac.
Bah Johnny, là aussi, on s'était rencontrés bien avant La Rochelle.
Oui, je me sens cuisinière encore, landaise toujours. Ça, je pense que ça sortira jamais de mes tripes.
J'ai pleinement confiance aussi dans l'avenir de notre ville. Bordeaux la belle, je te souhaite bon vent.
Vive la radio!
Radio, raconte-moi ton histoire. Une série historique et futuriste proposée par le CTA de Bordeaux. Aujourd'hui, la radio, une amie du quotidien.
05 56 19 10 10 pour vos inforoutes. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour Dominique, bonjour à toute l'équipe. Voilà, c'est pour vous signaler, je suis passé tout à l'heure à 5h30, la route, la 1215, était coupée quand vous arrivez depuis Castelnau-Médoc, vous dirigez vers le Taillat-Médoc, au niveau du rond-point dans Vincent. Alors, je ne sais pas, il n'y avait pas d'indication.
D'accord.
Voilà, il y avait intervalle, c'est dû peut-être au feu qu'il y a eu en début de semaine sur la commune d'Arsac à Vincent, que les pompiers sont intervenus cette nuit.
Oui.
Ou alors un accident, je ne sais pas, c'est pas précisé, mais la route est coupée, donc il faut passer par, si on veut venir vers Blanquefort-Bordeaux, par Arsac et rattraper par Blanquefort-Margaux.
C'est la voix de Patrick, mais ce pourrait être celle de Nathalie ou de Christophe. Patrick, c'est l'un des patrouilleurs de France Bleu Gironde. Un de ces nombreux automobilistes qui n'hésitent pas à téléphoner à leur radio préférée pour informer et surtout inciter à la prudence des auditeurs en temps réel d'un événement routier dont ils sont les témoins. Un accident, des travaux, une déviation, un gros ralentissement, du verglas ou du brouillard, comme une sorte de chaîne de solidarité au sein d'une même communauté, celle des auditeurs.
Le patrouilleur, si on devait utiliser un terme à la mode, on pourrait le qualifier de lanceur d'alerte à son niveau.
Dominique Bourdeau, animateur de France Bleu Gironde.
Puisqu'il dit, voilà, attention, à tel endroit, il se passe tel événement qui, si vous êtes sur le même axe, peut soit vous mettre en danger, soit augmenter votre temps de parcours. Donc oui, c'est un informateur dans le sens où lui, il est sur la rocade, sur la 10, sur le réseau secondaire. On peut pas, ni les autres services publics, le conseil départemental, la gendarmerie, etc., etc., donner toutes les infos de nos patrouilleurs. Eux, ils sont partout, tout le temps, parce que c'est leur quotidien. Et voilà pourquoi ils sont des informateurs précieux pour celles et ceux qui partagent et le même trajet, et le même territoire, et la même radio de service public. L'exemple que je peux donner ici, c'est un épisode de gel que nous sommes en train de connaître en Gironde, qui menace les premiers bourgeons des vignobles. Dans les rangs de vignes, on utilise dans ces cas-là des brûlots, c'est-à-dire que les viticulteurs font brûler de la paille, notamment pour éviter le gel de la vigne, ce qui dégage des fumées très épaisses avec les routes qui passent au milieu des vignobles. Et bien ce matin, on a eu un patrouilleur aux alentours de 6h20 qui nous a de suite signalé que sur le secteur de Pomerol, la visibilité était très réduite sur les départementales, que la fumée était très épaisse sur la route et qu'il fallait faire attention. Voilà, on a pu comme ça prévenir tous les gens qui prenaient leur voiture ce matin qu'il fallait prévoir des temps de parcours plus importants, qu'il fallait être attentif sur la route, peut-être changer d'itinéraire. Et notre mission de service public a été remplie puisque, bon, on peut dire, sans utopie déraisonnable, qu'on a peut-être évité des accidents.
Le patrouilleur, c'est un exemple on ne peut plus concret de tout ce qui fait le lien entre une radio et ses auditeurs. Du point de vue des professionnels de l'antenne, chacun le définit à sa manière, mais très souvent, ce sont les mêmes mots qui reviennent, intimité, simplicité, proximité.
Je crois que ça commence par la simplicité et l'intimité que crée la radio.
Hervé Gauthier, membre du CSA, en charge des dossiers radio.
Cette proximité, ça commence là. Ça commence par l'intimité qui s'établit naturellement entre quelqu'un qui est dans un studio, en général petit, ouaté, avec l'impression d'être à l'abri d'une certaine manière du monde et qui parle dans un micro à des gens qui, de l'autre côté, écoutent la radio souvent de manière intime également, en étant chez eux, en faisant des tas de choses chez eux, ou en étant au travail, ou en étant dans leur voiture. Et je pense que déjà la proximité de la radio, elle commence là. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on se connaît. Que ce soit celui qui parle dans le micro, que ce soit celui qui écoute, on a l'impression qu'on se connaît. Et puis, la radio, c'est simple, finalement. Vous avez un appareil, vous l'allumez, vous choisissez votre station, et puis, voilà, vous recevez du son qui vous raconte des choses, qui vous informe, qui vous fait écouter de la musique, qui vous propose tout un tas de programmes, qui ne vous empêche pas de faire d'autres choses d'ailleurs dans le même temps. Vous pouvez avoir votre poste de radio qui vous accompagne partout et dans tous les gestes de votre vie. Et ça aussi, ça renforce l'intimité du lien entre la radio et ses auditeurs.
Et ce qui fait cette force, c'est aussi la proximité. Ce sont des gens qui peut-être vous reconnaîtront quand vous êtes, puisque vous habitez sur ce territoire. Et c'est la notion même de la radio de proximité.
Hervé Delrieux, directeur de Fréquence Grand Lac.
Ce sont des gens qui vont vous reconnaître sans que forcément vous les reconnaîtriez. Donc, ils vous reconnaissent parce que c'est une voix. Une voix qui vous accompagne, une voix qui est familière. Je dirais qu'on représente finalement, avec ce seul organe, on va dire la voix qui casse des solitudes, la voix qui accompagne. Moi, je me souviens, j'ai toujours connu, et je pense qu'il n'y a pas de hasard, mes parents, ma mère notamment, avoir ce poste allumé du matin jusqu'au soir. C'était le premier réflexe qu'elle avait dès qu'elle se levait le matin. Elle allumait le poste et j'ai toujours connu dans ma famille le transistor qui était allumé et qui amenait non seulement ces informations, mais également cette musique. C'était une tierce personne qui relie aussi les générations et les classes sociales. Et je pense qu'on prend vite compte de l'importance que l'on a auprès des gens, de ceux qui recherchent, on va dire, cette connexion au quotidien. Je pense que c'est ça, la radio est l'ami du quotidien.
Quand on s'est lancé,
Alain Maillère, ancien directeur de 8FM.
On était, à mon sens, la seule radio en France. Chez nous, ça a duré 7-8 ans. Et puis après, pour des tas de raisons, on a arrêté. À avoir un animateur en direct 24 heures sur 24. C'est-à-dire que de 1h à 5h du matin, on n'avait pas des bandes enregistrées, on n'avait pas de la musique ininterrompue ou avec quelques jingles. On avait quelqu'un de physiquement présent. Et c'était pour montrer aux gens de la nuit qu'ils n'étaient peut-être pas très nombreux, et en tout cas, ils n'étaient pas les plus nombreux de la journée à nous écouter, mais que pour nous, ils étaient aussi importants.
Cet ami du quotidien ne laisse personne isolé sur le bord de la route. Même les jeunes arrivent à bien en parler.
Depuis que je suis petite, j'écoute beaucoup la radio. Enfin, c'est un rituel du matin.
Zélie, 13 ans, collégienne en Gironde.
Le matin, en semaine, on se réveille, et puis quand on descend, il y a la table du petit déjeuner, il y a la radio qui est allumée. Et en fait, j'aime bien parce que ça cale le matin. Tu dis, quand t'arrives, tu te mets à table, c'est la A, c'est les informations. Ah tiens, ils passent aux journalistes un peu qui font rire. Tu dis, ah, faut que j'y aille, faut que j'aille me laver les dents. Quand tu descends, c'est encore sur un autre programme. Et ça cale le matin un peu, ça permet de donner un peu de rythme.
Et puis il y a cet autre lien magique qu'est celui de la voix. La voix de l'inconnu que l'on écoute à l'autre bout du poste, comme on disait autrefois, ou de son téléphone portable, comme on dit aujourd'hui. Ce lien est tellement magique qu'il en devient inexplicable. Dominique Bourdeau.
J'ai la chance d'avoir commencé la radio au moment de l'arrivée de la FM en 82. Et bientôt 40 ans plus tard, je ne m'explique toujours pas ce lien, parce que il est magique, irrationnel, affectif comme on peut pas le supposer. Il y a des gens pour qui c'est absolument vital. On fait vraiment partie de la famille quand on prend la parole tous les matins. Ça m'est arrivé de croiser des gens et même d'ailleurs que ce soit des citoyens lambda ou des députés qui me disent J'aime bien la façon dont vous dites bonjour à 5h59, ce qui est juste absolument incroyable, parce qu'on a l'impression que je le dis bonjour presque au saut du lit, quoi, ou des expressions comme vous êtes la personne avec qui je me réveille, enfin qui ou je me lève avec vous tous les matins, voilà, qui sont des expressions qui démontrent un lien affectif, enfin qui est c'est une hyper proximité qui est aussi pour ma part aussi touchante, formidable qu'inexplicable. Sans doute bien des chercheurs se sont lancés sur une explication rationnelle. Mais en même temps je me nourris de cet irrationnel affectif qui est tellement sublime.
CTA, dessine-moi une radio.
Mais tout cela ne suffit pas pour tenter de comprendre ce qui unit aussi intimement une radio à ses auditeurs qui sont souvent d'une grande fidélité. On a tous, pour des raisons diverses, notre station préférée. Si l'on s'y attache autant, c'est parce qu'elle nous parle, au plus profond de nous-mêmes, parce qu'elle nous ressemble, en un mot, parce qu'elle nous intéresse. Hervé Gottschaux.
L'étage suprême de la fusée qui crée cette relation intime entre la radio et l'auditeur, c'est le contenu. Et là, on sait bien que au-delà, on va dire, des programmes en général, il y a aussi des temps de crise où la radio intervient. Et donc, on sait qu'en temps de crise, la radio est là aussi pour vous accompagner. Et puis, au niveau des contenus, la proximité, elle peut être géographique. On pense par exemple aux radios associatives qui sont souvent dans des zones de proximité géographique qui sont très serrées, très restreintes et puis qui parfois sont les seules dans certaines zones à venir animer l'accès aux médias pour les auditeurs et à distribuer une information locale. Mais ça peut être aussi une proximité qui ne soit pas géographique mais culturelle. Ça peut être une proximité confessionnelle. Il y a des radios qui sont tournées effectivement vers la religion et qui agrègent des auditeurs qui partagent les mêmes convictions. Ça peut être des communautés, parfois des diasporas, des communautés d'origine étrangère où les gens se retrouvent justement et retrouvent des éléments de leur culture sur telle ou telle radio. Donc la proximité, elle se fait aussi au niveau du contenu.
Cette notion de contenu est évidemment fondamentale. La radio nous raconte la vie, le monde qui nous entoure, du coin de notre rue à l'autre bout de la planète. C'est ce qui nous la rend si proche. Elle nous dit le temps qu'il va faire, elle nous distrait, elle nous informe sur l'état du trafic routier, elle nous rend service, nous donne des trucs du quotidien pour faire la cuisine, pour notre santé, sur nos droits et sur bien des choses encore. Exemple choisi sur Demoiselle FM, Radio MDM, LNFM, La Voix du Béarn et Radio 4.
Bonjour Philippe.
Bonjour Caroline.
Vous êtes né quand ?
Le 24 juin 1962.
24 juin 62. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?
J'aurais voulu savoir, moi c'est au sujet de ma fille en fait.
Oui.
Qui est séparée. Puis j'aurais voulu savoir un petit peu où elle va quoi.
Elle est née quand et elle s'appelle comment votre poussinette ?
C'est Mélanie. Elle est née le 8 avril.
De quelle année ?
88.
Alors, 8 avril 88. Je dirais que c'est un peu difficile pour elle, cette séparation, c'est décevant. Et en même temps, c'est une forme de chance. Elle n'était pas bien avec cette personne-là. Hein?
Oui.
Vous inquiétez pas. Hein? Pour moi, elle a le nez fin. Quoi. Enfin, ça peut paraître bizarre, hein, mais ça tombe comme un coup de chance, cette séparation.
Moi, le pastrami, j'en ai entendu parler quand j'étais gamin. Dans une série télé que les moins jeunes d'entre vous ont dû voir deux, trois fois, c'est Kojak. Ouais. Kojak, c'est un lieutenant de police totalement chauve. Alors, il prend des sucettes en permanence. Par contre, à chaque fois qu'il mange, il veut un sandwich au pastrami et il veut beaucoup de moutarde.
Alors, c'est très marrant ce que vous dites, parce que moi, quand on parle de pastrami, moi, ça me rappelle, j'étais jeune aussi, un film qui s'appelait Il était une fois en Amérique, ah oui, avec Robert De Niro, qui est tout petit dedans, et il gagne son premier dollar en étant un escroc dans le quartier juif de New York. Et avec ce dollar, on lui dit, tu vas pouvoir t'acheter des sandwichs au pastrami. Et j'ai découvert ce nom.
Donc le pastrami, c'est un mode de préparation de la viande de bœuf. C'est une viande de bœuf qui est d'abord saumurée et qui ensuite est fumée.
Allez, voici donc la première dédicace, c'est Pierre-André avec le moulin d'Héloïse. C'est pour l'anniversaire de Arlette de Rochefort, de la part de Michel et Nicole, les petits cousins de Chantemerle sur la soie. Et un gros bisou à Michel et aux filles de la radio. Merci.
La grosse difficulté qu'on a, par contre, on a du mal à trouver des masques, on n'en a plus aujourd'hui, et que effectivement, bon, on continue des décrets ou des directives qui ont été envoyées aux uns et aux autres, que ce soit aux pharmacies ou autres, on ne peut pas nous les distribuer parce que nos salariés ne sont pas considérés comme étant prioritaires. C'est pour ça que je me permets de vous contacter à vous pour lancer un appel, pour savoir s'il y a des structures qui auraient des masques, même ceux qui, effectivement, du H1N1 sont a priori périmés, mais au moins on protège un minimum pour qu'on puisse en récupérer et le distribuer à nos aides à domicile aujourd'hui qui travaillent sur l'ensemble, sur presque tout le territoire.
Voici le carnet de Radio 4. À Pujol, le décès de Monsieur Pierre Toméo, survenu à l'âge de 88 ans. Ses obsèques religieuses seront célébrées vendredi 7 mai à Pujol à 14h30. L'inhumation aura lieu au cimetière de Cambes. Un dernier hommage peut lui être rendu à la chambre funéraire de Jouy de Villeneuve-sur-Lot.
Et oui, la radio peut aussi nous annoncer que notre voisin ou l'une de nos connaissances est passée de vie à trépas. Dans notre région, cet exemple unique, c'est celui de Radio 4, aux confins du Lot-et-Garonne et de la Dordogne.
Comment est née l'idée des avis d'obsèques radiophoniques ?
Jean-Paul Épinette, cofondateur de Radio 4.
Eh bien, dans la toute première grille de nos programmes figurait l'émission Sandwich, qui disait le slogan « Une tranche de bonnes affaires entre deux tranches de musique ». Cette émission de petites annonces gratuites, qui existe toujours, généra une très forte adhésion populaire. Dès les débuts, nous avions équipé le studio de 4 lignes téléphoniques. Et bien, à chaque fois, elles étaient littéralement prises d'assaut. Nous avions donc le souci constant de renforcer nos liens avec nos auditeurs. Régulièrement, les gens nous demandaient d'annoncer le décès d'un membre de leur famille ou une association, la disparition d'un de ses responsables. Alors nous avons franchi le pas et comme dans la presse quotidienne, nous avons lancé il y a une quinzaine d'années le carnet de Radio 4. Et à nouveau, l'écho populaire a été très 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 fort. Cette émission apportait en effet un nouveau service à la population. Elle nous permettait aussi, d'ailleurs, de créer une nouvelle ressource. Et puis, en révélant les liens intimes qui unissent les gens d'un bout à l'autre de cette zone de diffusion que nous avions voulu, entre Lot, Dordogne et Garonne, en renforçant ces liens, les avis d'obsèques sur Radio 4 renforcent le rapport des gens du pays à leur radio.
En fait, chaque radio a sa manière, bien à elle, d'ancrer sa proximité avec ses auditeurs. Les méthodes sont très différentes entre, par exemple, la très urbaine et bordelaise 8FM et la très rurale Voix de l'Armagnac, où le studio est installé dans le salon de sa fondatrice, Alain Meyer. Puis Nicole Tan.
La proximité et la relation avec les auditeurs, un jour, ça a été de mettre en place quelque chose qu'on a été les premiers à fabriquer à la radio. On a demandé aux auditeurs de nous téléphoner. On commençait à avoir des téléphones dans les voitures. On leur demandait de nous téléphoner pour nous dire où est-ce qu'il y avait des radars. Il n'y avait pas de radar fixe à l'époque. Il n'y avait que des radars embarqués, des gens sur le bord de la route, la voiture était garée perpendiculaire à la route, etc. Et les premiers jours, on a commencé à recevoir 2, 3, 4 appels, c'est monté très vite à 10, et ensuite plus il y avait de radars et plus on recevait d'appels. On a fait cette espèce de réseau qui fait qu'on disait aux gens, quand vous croisez un radar, appelez-nous immédiatement, parce que peut-être que la prochaine fois, vous passez sur une route où quelqu'un d'autre aura appelé. Et on a monté ce premier réseau d'entraide entre les auditeurs, qui nous a valu un rendez-vous avec le patron de la gendarmerie bordelaise, qui nous a dit que s'il n'avait pas été aussi calme ce jour-là, il nous aurait directement fait passer par la fenêtre. Et où on a convenu d'élargir un tout petit peu la zone en disant non pas la voiture est derrière le troisième platane à droite, mais elle est entre tel et tel endroit, pour expliquer aux gens qu'il fallait en fait ralentir sur toutes les routes de Gironde.
Notre radio a son studio et son bureau. Bureau situé juste avant la librairie de notre village. Il est ouvert tous les matins jusqu'à 12h15, ce qui permet aux auditeurs de s'arrêter et de venir discuter, de demander des renseignements, de me laisser leurs affiches concernant les événements. C'est un endroit très convivial où s'établit un lien social, des relations en toute confiance. Je les questionne, comment marche par exemple leur asso, quels problèmes ont-ils, et au moment de se quitter, je leur demande alors de venir présenter les associations en direct du studio puisque nous sommes agréés pour le direct. C'est une approche différente de celle des villes. Une approche différente, différente complètement. Alors on peut dire évidemment radio des villes, radio des champs. Et nous sommes radio des champs.
S'il y a en revanche un point qui rassemble Radio des Villes et Radio des Champs, c'est qu'elles sont encore plus proches de leurs auditeurs au moment des grandes catastrophes, de ces temps de la vie où l'on a besoin de solidarité, d'entraide. La radio est alors sur le terrain, au plus près de l'événement, pour informer, mais aussi pour secourir et aider.
Alors oui, là ça descend, mais les élus restent vigilants car il y a de la pluie annoncée ce week-end. Et puis il y a des personnes qui sont encore isolées et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Certains n'ont plus d'électricité, plus de toilettes et plus d'eau dans le réolé. Les élus se sont justement organisés avec l'association des pêcheurs pour les ravitailler cet après-midi au niveau de Floudès et puis Baran. Des évacuations doivent encore avoir lieu aujourd'hui. Les pompiers attendent en ce moment même que le jour se lève pour pouvoir prendre leur bateau. Hier, une centaine de personnes ont été évacuées par bateau, essentiellement dans le Réolé, qui regroupe 19 communes en zone inondable.
Merci Audrey Dumain, en direct de la Réole.
Après les inondations de la Garonne, retour au 15 juillet 2003. Ce jour-là, en moins de 2 heures, une tornade balaie Biscarros et ses campings bondés, laissant derrière elle 5 morts, des dizaines de blessés et un spectacle d'apocalypse. À Fréquence Grand Lac, Hervé Delrieux se souvient.
On arrive à l'hôtel de ville et on dit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Par chance, nos émetteurs étaient toujours actifs, nos antennes n'étaient pas touchées. Et là, on a eu la grande chance d'avoir le directeur du cabinet du préfet qui venait d'arriver, qui était un Antillais, et qui a à l'époque dit au maire d'alors qui était Alain Dudon, et il lui dit « mais il faut des bouteilles d'eau, monsieur le maire, essayez d'avoir un stock d'eau, ok ?» Le maire lui répond « pas de problème, et des piles. » Parce qu'aux Antilles, quand il y a des événements cycloniques, le premier réflexe des habitants, c'est de savoir de quelle façon ils sont accompagnés et de quelle façon on s'efforce de réguler la situation. Et ces piles vont servir à alimenter les postes de radio. Et puis, on a pris à 2h du matin, avec le premier magistrat de la commune, l'antenne, en disant ben, « la vie est là, la vie continue, on s'occupe de vous ». Et pendant 48 heures, on s'est relayé au micro, on se rasait dans les toilettes en bas comme on pouvait. L'office de tourisme était venu avec des intervenants. Et en 3 langues différentes, on a relogé près de 600 personnes en l'espace de 48 heures. Des gens qui étaient sinistrés dans les campings et les gens se proposaient pour héberger ces sinistrés des campings.
J'écoute la radio. Et vous ?
Le lien, toujours le lien. Parfois même, pour une autre forme de lien, la radio se met à parler dans des langues que l'on ne comprend pas toujours.
Neguko chercher une gousia finitse tandela et ta berdugula ou ta berrigousia chi. Beas bai negute gietan or waierte baginintin en celadak, bletak, spinaka, kolako neguko stokiak. Eta wai landatzen ditugu ou ta berri eta ou dako landare gousiak. Beas wai hasten gira kuiatxoak, fitesko tomatiak. Beas hori da, aldaketa langusi hori wai dugu, martxoan negute gietan parastat. Eta kampuan berdin, waierte pojuta asta ginintin edo pausa. Eta wai berda ebe dena lantzen hasi, ungarriak eman, lujak landu, eta landatzen hasi, martxotik, ekaina arte, guai izain da, sasoin partitzia.
Le carnaval cochiro lo diese de ma au Périgueux, un grand carnaval espérant de le drôle et le drôle de la calendrette que font le jugement comme que se passe et tu qui as vécu habitat pau et tout quoi per dire pau quoi dur penne une mail la préparation d'un carnaval à Limoux et au Yod in tout le sud de l'Occitane et qui est plein important. Alors il y a toute quelle dynamique d'activité, il y a bien sûr la vie de notre radio parce que sont tous des bénévoles avec au cas que pitison et mai ma donc une radio associative libre et justement pour Boya la parole au monde que l'on parle d'habitude, la radio que vous j'écoute et on te baillant la possibilité à tout le monde de s'exprimer.
Oui, nous sommes en Aquitaine et nos langues régionales, le basque, l'occitan, le béarnais, le gascon sont plus que jamais vivantes grâce à quelques radios qui ont choisi de les intégrer à part entière dans leur programme. Elles sont même l'identité de leurs antennes. Le lien avec les populations de leur zone de diffusion s'en trouve encore renforcé. Ils présentent même au Pays Basque une vraie singularité.
Les radios qui étaient associatives portées par des bénévoles, au départ, il n'y avait pas de financement public.
Christophe Betbédé, coordinateur d'Ouskal Iratiak.
Donc les radios se sont construites sur le financement dit populaire. Enfin voilà, le crowdfunding de l'époque. Alors le crowdfunding de l'époque, c'était quoi? C'était en fait les jeunes du pays des villages qui faisaient le tour des maisons des villages, notamment à l'intérieur du Pays Basque, toute la zone Basse-Navarre-Soul, bon, à peu près d'Itsassou, à Saint-Jean-Pied-de-Port, Moléon, Saint-Palais, voilà, c'est Asparin, ces coins-là. Et très concrètement, en fait, c'est les jeunes organisés autour des comités des fêtes des villages. Les jeunes, c'est à partir de 16 ans à 25 à peu près, c'est cette tranche d'âge. Et les jeunes qui font le tour des maisons pour, en fait, faire une récolte de dons pour la radio. Les radios se sont formées là-dessus. Or, c'est agréable, hein, on fait le tour du village, des voisins. Bon, voilà, on a le café. Bon. Donc, en même temps, ça crée du lien social. Et en même temps, en faveur d'un projet territorial, quelque part. Et quelque chose, c'est vrai, d'un peu, ouais, presque miraculeux, c'est qu'en fait, 40 ans après, ça existe encore. C'est-à-dire, à une époque, c'était porté par des gens qui étaient convaincus du projet radio et qui ont convaincu autour d'eux. Et aujourd'hui, ça fait partie, en fait, de la vie du village, voilà, de participer à cette action-là. Et les jeunes viennent à la radio par ce biais. C'est-à-dire, le premier contact, au-delà des ondes, hein, le premier contact concret, il est par ce biais. Et ensuite, comment se fait le contact? C'est que les jeunes, ils arrivent avec les dons, ils les amènent à la radio, donc ils font connaissance avec la radio, on leur présente les studios, et puis certains, enfin la plupart de nos recrutements, même, c'est des jeunes qui ont connu la radio déjà, ou en auditeur, ou en étant bénévole, voilà, pour la récolte de dons.
C'est vraiment chouette, la radio. Alors, ce lien est-il indéfectible? On voudrait le croire dans un monde idéal, mais on sait très bien que ce n'est pas tout à fait vrai, que les audiences de la radio s'érodent, que telle ou telle station perd régulièrement des auditeurs. Et puis, il y a cette modernité, les smartphones, les podcasts, l'écoute à la demande, n'importe où, n'importe quand, peut-être même n'importe comment, les matinales retransmises en direct sur les sites internet, et ça, bien sûr, ça ne plaît pas à tout le monde.
Aujourd'hui, et c'est vrai qu'avec les podcasts et tout ça, les gens n'écoutent plus la radio, ils l'écoutent quand ils ont envie.
Pascal Darmandieu, directeur de Demoiselle FM.
C'est-à-dire que moi j'ai envie d'écouter à ce moment-là, donc j'écouterai à ce moment-là. Donc c'est un petit peu... avant, quand on voulait écouter quelque chose à la radio, on était là à l'heure pour l'écouter. Et quand on veut prendre son train, on est là à l'heure. Quand on veut, aller chez le médecin qui vous donne un rendez-vous, vous êtes là à l'heure. Je pense que la radio, c'est pareil. On doit être là à l'heure pour écouter le journaliste ou le chroniqueur qui fait sa chronique. Ça doit pas être un libre. Moi, je trouve que la radio, ça ne doit pas être un libre service où on vient servir quand on a envie et quand on veut. on peut avoir un site pour archiver, pour des gens qui veulent retrouver des sujets qui sont passés il y a une semaine. Mais au quotidien, je vois pas l'intérêt d'aller mettre, par exemple, un horoscope sur un site internet, l'horoscope du jour dès 7h le matin, alors qu'il va passer à 7h30 à la radio. L'auditeur ne doit pas l'avoir avant, il doit, doit venir le chercher à 7h30 à la radio, et qu'après il soit mis sur l'après-midi sur le site. Voilà. Enfin, moi c'est mon fonctionnement. C'est-à-dire que le site internet ne doit pas être avant la radio. Et ce que je déplore, c'est qu'aujourd'hui, on a enlevé toute la magie de la radio. On regarde à droite, à gauche, on voit des radios qui sont diffusées sur telle chaîne de télévision. On a enlevé la magie en apportant des visages sur ces voix. Et je trouve qu'une radio, quand on est auditeur, on entend une voix, on s'imagine un visage. On se dit, tiens, cette personne, elle doit être comme ça ou comme ça. Après, lorsqu'on la voit, on peut être satisfait ou déçu, mais bon. Et en apportant aujourd'hui, avec les sites internet et tout ça, l'image de la radio, on a cassé un peu cette petite boîte qui était une boîte magique, quoi, à l'époque. Mais aujourd'hui, voilà, tout change, et la radio est dans ces changements aussi.
Oui, c'est vrai, la radio change, et par conséquent, notre rapport avec elle. Mais elle ne fait au fond que suivre les évolutions technologiques et sociétales. Et même si on l'écoute un peu moins aujourd'hui qu'avant, même si elle est moins fédératrice qu'autrefois, il est une constante qui ne meurt pas, c'est ce lien profond que toute radio sait tisser et entretenir avec ses auditeurs.
Qu'en sera-t-il demain? Ce lien va-t-il perdurer? La radio deviendra-t-elle un banal objet sans âme? Pire encore, peut-on sérieusement envisager un monde sans radio? Ce sont toutes ces questions qui seront abordées dans le prochain et dernier volet de Radio, raconte-moi ton histoire.
C'était Radio, raconte-moi ton histoire, une série historique et futuriste proposée par le CTA de Bordeaux. Cet épisode a été préparé par Françoise Dost et Jean-Pierre Goffre, avec la complicité technique de Victor Michet et Karl Sauma, à la réalisation Marc Rigaud, et la contribution de nos radios locales, sans lesquelles rien n'aurait été possible.